Alors, on parle toujours de nos enfants en détresse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants en détresse? Vous pouvez m'appeler si vous avez une idée, si vous avez envie d'en parler, si vous vivez une situation. Je suis très facile à rejoindre au 514-790-9850 ou à l'extérieur de Montréal, 1-866 sans frais, 790-9850. Et tout de suite, je reçois Mme Véronique Lapalme, qui est vice-présidente de l'APTS. Ça, c'est l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Elle représente les professionnels de la DPJ, les intervenantes, les avocates, les éducatrices spécialisées. Bonjour, Mme Lapalme.
Oui, bonjour à vous. Ça va bien?
Ça va bien, mais ça va mieux que nos enfants. Je trouve ça terrible. Ça fait des années qu'on réclame une certaine humanité, puis des moyens pour l'appliquer, parce que j'ai l'impression que les politiciens en parlent juste quand il y a une horreur qui passe à la TV, puis qu'après ça, c'est oublié.
Oui, ben tout à fait. Pour nous aussi, à la PTS, ça fait plusieurs années qu'on réclame là, des meilleures conditions de travail, notamment là pour les intervenantes et les intervenants dans le milieu du centre jeunesse et aussi en intervention en première ligne. Présentement, on est en négociation avec le gouvernement. On espère que M. Legault, on va arriver à trouver des solutions pour pallier aux graves problèmes d'attraction et de rétention. Le temps, on pense que c'est temps de bouger à ce sujet-là, puis on espère que le gouvernement soit au rendez-vous pour cela.
Parce que là, le rapport de la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse, écorche tout le monde dans son rapport. Donc, y compris ceux que vous représentez. Moi, je suis plutôt porté à les défendre, ceux que vous représentez. Mais ils sont écorchés aussi. Est-ce que c'est par manque de personnel?
C'est sûr que pour nous, par exemple, on souhaite là des réinvestissements massifs, majeurs, en première ligne, en prévention, et en deuxième ligne, en service de dernier recours, en fait, qui est la DPJ. Donc, on demande effectivement plus d'argent, plus d'embauches, parce qu'effectivement, il y a une pénurie de personnel, on ne se le cachera pas. Donc, pour nous, à la PTS, c'est clair que en améliorant les conditions de travail, puis en réduisant un peu la surcharge, en pondérant les charges de travail des intervenantes dans ces milieux-là, pour nous, c'est très important. Donc, Mme Martin le mentionnait tout à l'heure, mais que ce soit, en fait, des charges de travail qui ne soient pas axées sur la performance et sur la qualité, mais bien sur la quantité, mais sur la qualité, et non nécessairement avec un certain chiffre que les services soient adaptés aux besoins de la population et non pour remplir en fait là, des demandes de performance administrative.
Performance administrative, est-ce qu'on demande aux enfants, c'est des performances eux-mêmes. Moi, je veux pas des enfants performants, je veux pas des enfants sages, je veux des enfants heureux. J'ai parlé de ça avec Mme Arpin, elle n'avait pas l'air tout à fait d'accord avec moi. Est-ce que vous verriez plus, je ne parle pas de complètement faire éclater la DPJ, mais je veux dire, des structures plus autonomes. Moi, je vois même la DPJ peut-être sortir du réseau de la santé parce que c'est trop gros, ça ne peut pas être mêlé là-dedans. Puis demander des comptes au CIS, au CIUS, puis à tout le monde, ça fait une chaîne de commandement qui prend 18 ans avant d'arriver.
Notamment, on a déposé un mémoire à la commission Laurent il y a quelques mois de ça où on proposait une création d'une institution permanente et indépendante, un protectrice de l'enfance et de la jeunesse, à l'image en fait d'un ombudsman. Cette personne serait désignée par l'Assemblée nationale du Québec qui aurait la responsabilité d'élaborer et d'appliquer une politique nationale contre la maltraitance des enfants. C'est sûr que pour nous, on pense que c'est une partie de la solution. Aussi, on s'entend que la fusion de M. Barrette il y a quelques années de ça a créé vraiment plusieurs problématiques.
Une lourdeur.
Les services jeunesse se sont fusionnés en première ligne, deuxième ligne, et effectivement, là, pour nous, une structure autonome à l'intérieur des CIS et des CIUS pour la DPJ des services jeunesse. Ce serait intéressant, là, une avenue intéressante là, pour le gouvernement.
Le réseau de la santé est tellement énorme, j'ai l'impression qu'il étouffe sous son propre poids. On ne peut pas penser à sortir les DPJ du réseau de la santé. Ça ferait une énorme étape de moins. Je pense que les décideurs se rapprocheraient peut-être des intervenants et du monde qui sont en première ligne.
Mais pour nous, à ce moment-ci, là, en termes de transition, je dirais, là, de créer une structure autonome à l'intérieur des CIS et des CIUSSS avec un budget indépendant, on pense qu'effectivement, ça pourrait être une solution, puis de voir comment ça fonctionnerait et de voir justement là, avec une direction unique qui aurait des services de protection de la jeunesse, mais aussi des services psychosociaux et de réadaptation complémentaire qui chapeauterait en fait tous les services jeunesse de protection de la jeunesse pour accomplir en fait un mandat de protection de la jeunesse de manière adéquate en fait. Pour nous, ça serait vital pour commencer le tout.
Il y a des parents qu'on traite de monstres, c'est-à-dire peut-être des parents qui ont une enfance violente puis qui répètent ça automatiquement. Mm-hmm. Et il y a d'autres parents qui ont commis des choses violentes parce qu'ils ont été dépassés par la situation. Ils n'ont pas été aidés. L'enfant n'a pas été aidé à l'école. Les rapports n'ont pas été faits. Il n'y a rien qui s'est rendu. Et moi, pour avoir rencontré de ces parents-là, je me demande toujours si on avait pu les aider, est-ce qu'on aurait pu éviter de la violence en donnant plus de ressources aux familles qui en arrachent?
Mm-hmm. Bien, pour nous, c'est sûr, comme je mentionnais tout à l'heure, la DPJ, c'est un service de dernier recours. En fait, idéalement, on souhaiterait que si on investit dans la prévention, en service de première ligne, en CLSC, donner plus de services en termes de prévention, ça aiderait notamment à désengorger un peu la situation en DPJ et ça pourrait prévenir toutes sortes de situations de violence, de négligence, etc. Donc, en misant sur la prévention pour nous et développer une expertise aussi à ce sujet-là, ça serait important. Notamment, nous, la PTS, on demande un réinvestissement de 247 millions dans les services jeunesse. Donc, c'est sûr, il y a eu des coupures dans les dernières années. C'est important pour nous d'investir pour nos enfants du Québec.
Je parlais spécifiquement d'aider les familles. Est-ce que vous avez prévu ça dans vos colonnes de chiffres, dans ce que vous demandez?
Oui, bien, tout à fait. Effectivement, là, je parle aussi là, des familles, notamment en prévention à la DPJ. On travaille toujours avec les parents, avec les enfants. Et en prévention, notamment, il y a toutes sortes de programmes offerts en première ligne pour des psycho-éducatrices ou des personnes éducatrices qui viennent en aide au quotidien, en fait, là, pour aider les familles à mieux gérer le stress ou mieux gérer toutes sortes de situations qui pourraient amener à des situations de négligence et de violence et tout autre.
Est-ce que ça peut être simplement des parents qui perdent pied? Des fois, c'est ça. C'est des parents qui n'ont pas d'aide, qui perdent pied, qui n'en peuvent plus et qui peut-être ne seront pas violents, mais vont commencer à être négligents parce qu'ils sont débordés, ils ont leur propre personnel qui sont très, très, très haut. Les parents peuvent être malades. Par exemple, les parents toxicomanes, ils voudraient bien s'occuper de leurs enfants, mais on sait qu'une addiction, c'est plus fort que soi-même. Donc, ils sont victimes de leur addiction, mais ça crée une cruauté pour l'enfant parce que la négligence est une violence aussi. C'est pour ça que je parlais de l'aide nécessaire, puis il faut un peu que tout le monde se parle. Je crois pas que ça soit nécessaire qu'on fasse tous partie du même organisme avec le même fonctionnement, mais il faut que tout le monde se parle pour entourer ces gens-là. Les intervenants qui travaillent dans la DPJ, dans le rapport de la commission de la jeunesse, c'est mentionné que les personnes qui interviennent auprès des enfants les plus vulnérables du Québec manquent de formation, de support et de supervision. Êtes-vous d'accord avec ça?
C'est sûr, notamment, j'aurais peut-être quelques commentaires à faire à ce sujet-là. Par exemple, s'il y a un programme de formation plus formel pour les intervenantes là, qui arrivent en centre jeunesse, et aussi des formations continues, donc quelque chose peut-être d'un petit peu plus formel pour les former dans leurs fonctions et tout ça, parce qu'on s'entend quand on va aussi à l'université, on n'est pas formé pour travailler auprès d'une clientèle très particulière, surtout les besoins en DPJ, notamment de connaître la loi, de connaître tout ce qui touche en fait les aspects de l'attachement et tout ça. On le voit un peu dans nos formations universitaires, mais quand on arrive en centre jeunesse, d'avoir une formation plus formelle, ça serait très pertinent pour nous, puis aussi d'avoir accès à du coaching, laisser l'espace, en fait, ou peut-être aux travailleuses qui sont plus anciennes, de pouvoir coacher aussi les plus jeunes, mais à ce moment-ci, la surcharge est telle qu'on peut pas on peut pas appuyer, on peut pas arriver à donner du coaching aux plus jeunes parce que les travailleurs sont débordés en fait.
Ben là, si les parents sont vulnérables, ils n'arrivent pas à aider, puis on les envoie vers des intervenants qui sont pas assez formés. Et je comprends que la formation est complexe parce qu'elle est en arts martiaux, on appelle ça cross-training. Faut que tu apprennes plusieurs choses. Faut que tu apprennes les côtés légaux. Faut aussi que tu sois prédisposé aussi à entendre de la misère humaine. C'est pas facile. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Il y a des gens qui se blindent, mais ils peuvent pas se blinder. Ils sont atteints quand même. Eux aussi sont angoissés, eux aussi sont déprimés de vivre ces situations-là et d'y être complètement impuissants. Donc, je comprends que la formation doit être très, 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 très large, mais là, je pense qu'elle devient absolument prioritaire à ce moment-là. Si c'est eux qui prennent en charge des parents qui n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants, il faut que les intervenants soient formés.
Ben, en fait, pour nous, c'est pourquoi on veut que qu'une formation à l'arrivée pour les personnes qui arrivent dans le milieu des centres jeunesse, peu importe s'ils arrivent d'un autre milieu, par exemple, si une personne travaillait avec les aînés en CLSC, puis après 10 ans, elle veut aller travailler en centre jeunesse, ben, que cette personne-là puisse aussi avoir accès à cette orientation-là, une formation qui peut justement là. Une fois arrivée là sur le terrain, par la suite, qu'elle soit bien outillée puis qu'elle se sente en contrôle de la situation.
Est-ce que c'est clair, même si votre personnel est blâmé comme tous les autres niveaux d'ailleurs, il y a beaucoup de manque de financement, mais c'est clair qu'il y a personne qui veut aller se sacrifier, travailler pour la DPJ en n'aimant pas les enfants. C'est impossible. On y va parce qu'on est interpellé. C'est des vocations, ça. C'est pas juste des métiers. Merci beaucoup, Madame Lapanne, de nous avoir parlé.
Merci à vous.
Je dois aller à une pause. Passez une belle journée.
Bonne journée.
C'était Véronique Lapanne, qui est vice-président de l'APTS. On vous revient après la pause.